Bonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Alors, nous recevons à notre studio avec un grand plaisir Claude Hiena. Bonjour, Claude Hiena.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous.
Voilà, Claude Hiena, qu'on peut définir comme, dans un premier temps, comme chercheur en sciences sociales, mais aussi militant. Alors, comment vous avez. Alors, on va parler du livre, on va l'annoncer quand même. Hein. Dernier livre publié, D'un exil à l'autre, hein, qui essaye de développer une réflexion sur l'exil et l'émigration, avec une méthodologie particulière, originale, je puis dire. On va l'évoquer tout à l'heure. Alors déjà, parcours en sciences sociales et militant, comment les deux se sont mariés?
Les sciences sociales nous mènent facilement à la militance, dans la mesure où on parle de l'humain, on parle bien souvent du lien social. Et donc, tout ça, c'est intimement lié aux politiques économiques, aux politiques sociales. Et bien évidemment, ça renvoie à un positionnement citoyen. Mais je dirais que c'est l'observation qui m'a amené à la recherche et qui m'a amené aussi ensuite à publier. Là, c'est mon sixième ouvrage sur la thématique de l'exil.
D'accord. Alors, je disais une méthodologie un petit peu particulière hein, sur ce livre sur l'exil, qui s'inscrit en même temps dans la continuité de vos autres travaux. Hein, peut-être on évoquera en quoi. Alors, quelle était la méthodologie? Il y a des itinéraires particuliers, il y a aussi un témoignage quasi familial, hein. C'est pas vous directement, mais enfin ce sont vos ancêtres qui sont les personnages de ce livre, mais pas seulement. Alors, la méthodologie, c'était laquelle?
En sciences sociales, on s'appuie sur deux types de méthodologies. La méthodologie qu'on appelle quantitative ou quantitativiste, c'est-à-dire celle qui cherche à chiffrer, celle qui est capable de nous mener à des tableaux Excel. Moi, ce n'est pas vraiment les tableaux Excel qui m'attirent, mais c'est bien plus laisser la parole à ceux qui ne l'ont jamais et faire en sorte que, on va dire, les mots portent et soient porteurs d'une réalité. Je dis souvent que celui qui vit au quotidien est l'expert. L'expert n'est pas celui qui passe dans un endroit et qui essaie de l'observer. L'expert, c'est celui qui a la science du quotidien. Et donc, ce que l'observateur va essayer de percevoir dans ce qui est dit, c'est la compréhension de ce monde, la compréhension des civilisations qu'il va observer, c'est faire en sorte de saisir ce qui se passe dans la tête des déplacés, des exilés, et se rendre compte que bien souvent, ce qui est affiché comme des vérités, comme des axiomes, sont en fait des contre-vérités, sont en fait des opinions qui ne correspondent pas du tout à la réalité.
Oui, il y a quelque chose, je me dis, c'est peut-être l'écart pour moi, quand j'étudiais ces disciplines-là, entre la sociologie et l'anthropologie, la sociologie qui est gourmande de sociométrie, hein, et puis l'anthropologie qui est plus gourmande de récits, d'actions, d'actes, de choses concrètes, et je suis en train de perdre mon fil. Voilà, donc on est bien de ce côté-là où les faits, peuvent produire des effets statistiques, on peut en faire des statistiques, mais les statistiques sont des moyennes et en fait le résultat de la statistique n'existe jamais dans le réel.
Absolument. Et puis le plus souvent les cas que nous interrogeons sont des cas qui nous arrivent un petit peu par... alors par choix évidemment, parce qu'on choisit les cas qu'on va présenter, mais pour le cas précis de ce dernier ouvrage sur l'exil, c'est... disons, raconter l'histoire de mon grand-père qui a connu l'exil en 1921. Et le passage de la frontière de l'Espagne vers la France n'a pas été si simple parce qu'il l'a franchi en 1921 à pied, la frontière. Et évidemment, il n'avait pas de papier, si ce n'est des papiers espagnols arrivés sur le territoire français. Il a fallu se débrouiller avec. Et quand il s'est trouvé dans une municipalité près de Béziers, évidemment pour travailler dans le bâtiment parce qu'il était menuisier, il a eu quelques difficultés pour avoir des papiers, parce qu'il fallait avoir un CDI pour avoir des papiers, un petit peu comme aujourd'hui, il fallait que le travail soit là pour qu'on puisse avoir la carte des étrangers délivrée à cette époque par les municipalités, et ainsi pouvoir trouver existence à travers la production économique. Parce qu'évidemment, quand les déplacés viennent dans notre pays, c'est pour y trouver une réussite, hein, réussite et une participation à l'effort collectif. Le plus souvent, ils sont là pour montrer qu'ils ont réussi, montrer à leurs voisins qu'ils peuvent accéder à la consommation et montrer à leur pays d'origine, à leur village d'origine, que le passage de la frontière n'a pas été négatif. Même si mon grand-père n'a pas pu revenir parce qu'il était aussi déserteur de l'armée, refusant ainsi de lutter contre les Marocains, ou du moins les Rifains, dans cette zone du Rif du nord du Maroc qui voulait se séparer de l'occupant espagnol, et en même temps se séparer du pouvoir de Casablanca. Il cherchait une autonomie de fonctionnement. On voit que c'est une région un petit peu rebelle au pouvoir de Rabat, mais aussi au pouvoir des colons. Alors mon grand-père, à 17-18 ans, ne pouvait pas accepter cette soumission à l'autorité madrilène pour aller défendre les colons. Et c'est une double explication, à la fois économique, parce qu'il était le quatrième de cinq, d'une fratrie de cinq, et en tant qu'avant-dernier enfant, il n'avait pas droit à la terre. Donc, pas droit à la terre, il se forme en tant qu'ébéniste menuisier. Et puis, comme les circonstances financières et économiques n'étaient pas au rendez-vous, il décide de quitter le mas dans lequel il habitait, la terre dans laquelle il avait grandi, pour passer la frontière vers la France.
Mmh. Oui, vous évoquez ce conflit Espagne-Maroc, hein, qu'on a un peu oublié, parce qu'il est, j'ai envie de dire, il a été masqué par la guerre de 36, hein, et on a oublié, et pourtant, il me semble, ça a beaucoup marqué les consciences espagnoles.
Absolument, hein, absolument.
Alors, il faut prendre la génération des grands-parents plutôt maintenant, mais ça les a profondément marqués.
Absolument, et quand on fait un tour vers les recensements de 1926 que j'ai pu faire, on se rend compte qu'effectivement, les migrations économiques des années 20 a été aussi forte que la migration politique des années 36. C'est-à-dire que la France a besoin de bras, que ce soit au niveau de l'agriculture, que ce soit au niveau de la reconstruction. C'est 1 500 000 jeunes qui sont morts sur le champ de bataille. Il faut donc reconstruire.
Et la grippe espagnole par derrière, qui venait pas d'Espagne, mais ça fait rien.
Absolument. Donc il faut donc reconstruire. C'est un impératif. Et on voit combien le sang nouveau d'une jeunesse qui arrive de l'étranger peut renforcer un pays. Et par contre, l'accueil n'est pas ce qu'on pourrait imaginer. C'est pas si facile. Hein. Quand mon grand-père arrive, ils subissent des pressions. Ils se font traiter d'espagnifles. Ils se font traiter Ils sont malvenus, on leur fait comprendre que, je me rappelle des slogans en occitan qui disaient « un espagnol d'Espagne camplo se baño », pour ceux qui ne connaissent pas l'occitan, ça fait « un espagnol d'Espagne se lave quand il pleut », alors quand on connaît la propreté des Espagnols, c'était autant de vexations évidemment. Ils sont malvenus quand il faut se remettre dans la peau de cette jeunesse qui quelquefois trouve des amoureuses françaises, mais les familles n'en veulent pas, comme pour les Italiens, comme pour les Polonais. C'est des difficultés de reconnaissance de leur parcours, de leur personne, de leur qualité, et ils ont bien du mal à exprimer leur dignité dans un pays qui n'est pas forcément très accueillant, même si c'est oublié aujourd'hui.
Voilà. Alors, on disait méthodologiquement, donc il y a ça, c'est la première partie du livre, hein, où vous racontez tout ce récit. On reviendra un peu sur qu'est-ce qui a fait que il a réussi, hein, j'ai envie de dire, en quelque sorte, en France. Hein. C'est pas le système d'allocation, c'est autre chose. Et puis, vous mettez en parallèle avec une immigration qui a lieu un siècle plus tard.
Oui. Alors, effectivement, il va connaître... C'est par le travail qu'il va pouvoir s'impliquer et trouver reconnaissance dans les yeux de ses concitoyens. Et puis, c'est assez drôle parce que lui, ayant refusé l'armée, comme on l'a dit tout à l'heure, il va s'engager dans l'armée française et lutter contre l'occupant allemand. C'est-à-dire à quel point ce qui est vrai à un endroit peut être remis en question ailleurs. Et donc, ainsi, on peut revisiter ses engagements, ne serait-ce que pour ses choix militaires. Effectivement, ensuite, j'ai comparé.
Alors,
pour répondre à votre question.
On va juste faire une toute petite pause, parce qu'on coupe en 2 fois 10 minutes.
Donc, ça, pour parler de Boubacar.
Voilà, ça, c'était le destin d'Antoine, hein, le grand-père. Et puis, vous mettez ça en parallèle avec le parcours de Boubacar, dont on va parler tout de suite après une petite pause.